de trading interdisent les positions acheteuses. Aujourd'hui, l'action est maintenant à 200 $. Seulement, le phénomène a fait tache d'huile sur de nombreuses entreprises visées par des paris à la baisse. En Europe, c'est le cas d'Unibail et de Klépierre. Elles gagnent plus de 20% sur 5 jours, mais terminent aujourd'hui en baisse par rapport à la veille de 3 à 4%. C'était Rémi Demichelis, Investir pour RFI.
Et on rappelle donc que cette séance s'est terminée avec une hausse du CAC 40, l'indice de la Bourse de Paris, plus 0,9% précisément. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté.
Radio G 101.5 FM.
Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, votre quotidienne consacrée aux actualités, découvertes et pépites locales et culturelles. Nous sommes jeudi et c'est la fin de semaine pour cette émission, peut-être pour vous aussi, je ne sais pas. Ensemble ce soir, pour les 40 prochaines minutes, nous retrouverons des toiles plein les yeux. La chronique où Margot nous emmène au cœur de la mise en scène d'un film, au cœur de ce qui fait le cinéma. Il y aura un reportage sur le dispositif du service civique que l'on continue de découvrir chaque semaine le jeudi. Et nous débuterons par une nouvelle chronique dédiée à la littérature en dehors de l'actualité. Elle s'appelle « Le bruissement des feuilles » et elle est proposée par Luc. Voilà le programme. Je vous espère en forme, dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleures énergies possibles pour passer ce moment de radio ensemble. La citation, c'est une citation ce soir que j'ai choisie pour vous. C'est « L'artiste est menteur, mais l'art est vérité ». C'est François Mauriac, écrivain, qui le dit. Je vous laisse y penser. Bien entendu, et comme chaque soir, on va débuter cette émission en musique avec un titre de Lizzo qui s'intitule « Truth Hurts ». Laissez-moi un peu de temps, il faut que je retrouve mon titre. Vous allez me laisser 15 secondes s'il vous plaît, si vous voulez bien. Vous n'avez pas de choix car vous êtes derrière votre poste et moi j'ai mal exporté le fichier que je devais vous passer. C'est un titre très joyeux, Lizzo. Peut-être que vous la connaissez déjà pour son album. Elle est américaine, ses prises de parole sont aussi très réjouissantes sur comment vivre sa vie, quelle que soit son apparence. Et ça, c'est bien. Moi, je valide et je vous invite à vivre cette énergie. J'espère que cette erreur ne m'empêchera pas de finir cette émission à l'heure, car je vous avoue que c'était complètement mon planning pour ce soir, pour terminer cette semaine en beauté. On verra ensemble. Merci de votre... Merci de m'accompagner dans ces émissions. Truth Hurts de Lizzo.
From the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. Pushing like, aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting.
Alors, on va débuter cette émission avec une nouvelle chronique de l'oreille curieuse, une chronique littéraire qui est proposée par Luc. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
On te connaît et on t'entend déjà sur les ondes de Radio G avec l'émission Entre les pages, consacrée à la littérature en Anjou. Une émission qui est réalisée le mercredi à 17h, une semaine sur deux en semaine impaire.
Et on m'entend aussi dans l'émission Calibre 58, où je fais une chronique sur le roman policier.
Très bien. Tu veux nous dire un peu quel sera le propos de cette chronique dans le bruissement des feuilles, ou on peut simplement...
Dans le bruissement des feuilles, c'est très simple. C'est de se dire qu'il y a des livres qui existent. Et des fois, c'est bien de se souvenir que ces livres ont existé, de les exhumer, et de ne pas être toujours attaché à l'actualité, mais plutôt de se dire qu'un livre, il peut avoir une vie beaucoup plus longue qu'on l'imagine. Inaugurer une chronique qui doit parler des livres en 2021, en pleine période de couvre-feu, de confinement, de masques, on pourrait considérer que c'est de la provocation. Parce que dans cette période, c'est bien le travail qui pose problème, le travail qui manque, la surcharge de travail, le télétravail, les petits boulots. Cette crise du travail semble surgir de façon aiguë, comme quelque chose qui ne posait pas question il y a moins d'un an. On s'étonne, à tour de journaux télévisés ou de radio, de ces jeunes étudiants qui n'ont plus de ressources, parce que plus de petits boulots. On découvre que des entreprises ferment, que des usines de grands groupes mettent la clé sous la porte, comme si c'était d'une part nouveau, et d'autre part la conséquence de la pandémie. Et pourtant, l'histoire du capitalisme, rebaptisée économie libérale, n'est faite que de ça, que de la recherche du profit maximisé. Alors avec la chronique d'aujourd'hui, exhumer un livre qui soulève la plus grande violence, avec la plus grande violence clinique, la question du travail. Ce livre, il a été publié en 2008 par une sociologue, Elsa Feiner. Ça y est, j'en entends déjà qui grommelle, une sociologue, et puis quoi encore, c'est encore un livre qui va faire 500 pages, écrit tout petit, avec des phrases sans fin et des mots qu'on ne comprend pas. Eh ben non, ce livre est tout le contraire. Il fait juste 172 pages, annexes comprises, et il ne s'appuie que sur des situations très concrètes. Je sais, tu vas me dire, Annelie, oui, enfin, Bourdieu nous avait déjà fait le coup avec La misère du monde. C'était concret, mais ça faisait quand même 900 pages. Elsa Feiner, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait ? En tant que sociologue, elle s'est posé la question : qui travaille au salaire minimum, dans quelles conditions, avec quelle perspective ? Et pour répondre à cette interrogation, elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi sans qualification. Et le résultat, ce sont trois expériences qu'elle raconte. Un premier poste comme téléopératrice. Vous savez, ces gens qui vous appellent juste à midi pour vous proposer des assurances santé. Un second poste comme salariée à IKEA. Et un troisième comme femme de chambre dans un grand hôtel de luxe. À partir de ces trois expériences, Elsa Feiner détricote le discours dominant de l'époque. Travailler plus pour gagner plus. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Travailler plus pour gagner plus ? On était en 2007, à la veille d'une élection présidentielle. Dans chaque expérience qu'elle raconte, parce qu'elle les a vraiment vécues, elle cite nombre de références statistiques, enquêtes, qui montrent qu'il n'y a peut-être pas de fatalité à ces petits boulots, mais plus qu'ils sont le résultat d'une nécessité économique dictée par cette fameuse économie libérale. Les titres de chaque expérience disent à eux seuls tout. Caissière, dans tes rêves, la meilleure équipe gagne le pot de confiture. Unis pour le meilleur et pour le pire. La chambre en 22 minutes. Et elle les met en abîme par le biais de petits exergues à chaque chapitre. Alors j'en lis juste un. Ça c'est pour le chapitre intitulé « La meilleure équipe gagne un pot de confiture ». La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? Et ça, c'est une phrase de Laurence Parisot, présidente du MEDEF en 2005. Ce livre, même 14 ans après, reste d'une pertinence totale. Elsa Feiner ne nous prend pas pour des imbéciles. Et même s'il peut sembler court pour une étude de ce type, la bibliographie ne compte pas moins de 37 entrées et pas moins de 17 sites internet référencés. Comment ne pas penser, en le lisant, à ces villes qui sont heureuses d'annoncer l'installation d'une plateforme téléphonique, à tous ces auto-entrepreneurs dont le concept date justement de 2008, à tous ces forçats du vélo qui livrent des repas, à tous ces travailleurs, je ne parle pas de salariés, du dernier kilomètre, celui que ne fait pas Amazon. Alors oui, on peut lire de la sociologie, sans forcément d'ailleurs passer par Pierre Bourdieu. Et lire de la sociologie, si vous saviez comme ça rend intelligent. Le livre s'appelle « Et pourtant, je me suis levé tôt », avec en sous-titre « Une immersion dans le quotidien des travailleurs précaires ». Il était édité par les éditions du Panama, on le trouve facilement d'occasion et on le trouve même à la bibliothèque d'Angers.
Merci beaucoup, Luc. Toi, ça a fait écho à la période qu'on vit actuellement de lire ou relire ce livre ? Tu l'as relu
totalement,
récemment ?
Totalement. Totalement, parce qu'effectivement, on a tous les jours, aujourd'hui, à la radio ou à la télé, des flashs d'infos qui disent les étudiants dépriment, ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de ressources, il n'y a plus de petits boulots. Et c'est le terme qui est utilisé, il n'y a plus de petits boulots, ce qui était d'ailleurs terrifiant.
Moi, ça m'a fait penser quand j'ai écouté ta chronique aussi, depuis 2007, on a vu l'émergence de micro-travailleurs, toutes les personnes qui travaillent au clic, par exemple, dont le métier est de reconnaître telle ou telle image et qui permettent de nourrir les intelligences artificielles.
Tout à fait. C'est exactement ça. On est dans presque l'absurdité du monde. C'est-à-dire qu'on, effectivement, les travailleurs du clic, on n'imagine pas l'enfer que c'est. Pour ces gens-là, de passer leur temps à cliquer. En fait, c'est très con, mais c'est cliquer, c'est tout. Marquer des points, quoi, c'est tout. C'est terrifiant, oui, tout à fait.
Oui, et puis ça pose la question de qu'est-ce que le travail ? Puisque là, c'est qu'est-ce qui est rémunéré, mais en termes de compétences. Parce qu'on peut aussi dire le travail, ce sont des compétences, c'est une question de formation. Là, en l'occurrence, c'est quasi inexistant. Je laisse une petite marge. Toi, sur le thème du travail, tu as d'autres livres que tu veux nous conseiller ou pas ?
Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui ont existé. Alors, je pense qu'il y a un livre qui s'appelle Putain d'usine. Il y a un livre de... Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur et je ne l'ai pas préparé, c'est dommage. C'est Pontus qui a écrit sur sa vie dans une pêcherie de poissons. Et c'est vraiment un livre exemplaire. Il y a aussi, moi on est obligé quand on lit le livre de Elsa Feiner, je le redis, c'est un livre hyper facile à lire et il faut le lire. C'est vraiment essentiel. C'est très étrange parce que il y a un livre qui lui fait écho, c'est le livre de Florence Obna, Le Quai de Ouistreham, qui est sorti en 2010, et qui raconte presque la même histoire, mais en fait qui raconte pas la même histoire. Et en fait, on pourrait se laisser piéger parce qu'il y a vraiment une très importante communication sur le livre de Florence Obna, alors que Florence Obna, je pense qu'elle a fait du storytelling. Il n'y a aucune référence dans son bouquin. Elle raconte sa propre vie, ce qui est intéressant, au demeurant. Moi, je pense que ça pose quand même des questions. Le livre d'Elsa Feiner, il est beaucoup moins prétentieux, beaucoup plus précis, et il pose les questions de façon fondamentalement politique, et c'est ce qui en fait vraiment tout l'intérêt.
Ouais, après, j'ai lu ni l'un ni l'autre, je l'avoue. Donc, je ne peux pas me positionner dans ce débat que tu poses. Mais il a l'air court aussi, accessible, le livre que tu as choisi de partager avec nous ce soir. Tu parlais aussi, enfin, il y a un des exemples de travail qu'elle fait, qui est d'être femme de ménage, femme de chambre en hôtel. Je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, ça s'est encore réduit, les temps pour faire une chambre. Ah. Les femmes de ménage, là, aujourd'hui, elles doivent travailler en 15 minutes, à peu près, pour nettoyer encore une chambre. Et par exemple, il y a toujours les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles qui sont en grève. Des fois, c'est des hôtels de luxe, potentiellement. Je crois que c'est une grève qui dure depuis plus d'un an. Si vous avez envie d'aller voir ce travail-là, de les soutenir, c'est étonnamment et malheureusement toujours d'actualité. Et puis ça recroise aussi des questions de sous-traitance. On évoquait l'ubérisation dans ta chronique, tous ces micro-entrepreneurs, d'externalisation. Mais il y a aussi cette chose-là.
Tout à fait. L'expérience qu'elle relate dans la chambre d'hôtel en 22 minutes, c'est le plus grand hôtel de Lille dans lequel elle est. Hein. C'est le Plaza Hôtel de Lille.
C'est pas des hôtels miteux.
C'est pas des sous-hôtels, hein, loin de là. Ouais.
C'est genre le Carlton, quoi.
Oui, tout à fait.
Grand hôtel. Ouais. Moi aussi, je peux me permettre deux recommandations.
Bien sûr.
Mais quelle joie.
Bien sûr.
Alors, un livre, pareil, qui est assez connu dans ces questions du travail, que je n'ai pas lu, mais je me permets de vous le recommander parce qu'il m'a été confié par des personnes de confiance. C'est L'Établi de Robert Linhart.
Bien évidemment, il faut lire L'Établi, l'expérience post-68arde qui est magnifique, oui, tout à fait.
Où là, c'était des intellectuels, entre guillemets, qui se disent, bon, bah, on va aller à l'usine, voir comment ça se passe et partager cette expérience-là. Un autre livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu et vraiment qui est important, que j'aime beaucoup, c'est L'Éloge du carburateur. Je ne sais pas si tu l'as lu, Luc.
Ah oui, bien sûr.
Et oui, de Matthew B. Crawford. Donc là, on a un philosophe, hein, il est américain. Je vous le pitch quand même en quelques secondes. Alors, le sous-titre, c'est « Essai sur le sens et la valeur du travail ». Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il part de son expérience, où lui, il a un parcours qui est complètement atypique aussi, pas forcément d'une formation très théorique, mais il se retrouve à être directeur d'un think tank, c'est-à-dire d'un espace où on a des idées, où on pense, donc le truc qui est très valorisé, qui est très positif. Et puis, au bout de plusieurs mois, il se dit « Ok, je ne comprends pas le sens de ce que je fais ici, je ne comprends pas le sens de mon travail ». Et il va en fait se réorienter ou reconvertir, on dit plutôt à son âge, dans la réparation de vieilles motocyclettes, des vieilles motos de collection, parce que lui, il a aussi une passion de réparer des moteurs, des choses, etc. Et en fait, tout le livre est construit sur cette double expérience-là, de philosophie et de concrètement, là j'ai mon carburateur qui marche pas, de clé à molette, de comment faire payer une facture. Et il vient aborder toutes les questions autour du travail, de la reconnaissance du travail, de l'histoire du travail aussi, comment le travail en usine s'est développé, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on a mis les savoirs, ça croise énormément de choses. Moi j'ai trouvé ça très fin, très pertinent et aussi très réjouissant quelque part, c'est pas déprimant du tout, ça se lit comme un roman.
on part de son expérience. Vraiment, c'est extrêmement riche. Enfin, moi, c'est un livre que je vous recommande très, très chaudement. L'éloge du carburateur, Matthew B. Crawford, aux éditions La Découverte. Ça se trouve en poche maintenant. Je crois que c'est 11 euros. Et on le trouve très, très facilement en librairie.
Dès qu'on met de l'intelligence quelque part, ça devient passionnant.
Oui, et ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, c'est qu'il n'oppose pas le travail manuel et intellectuel. Il montre que justement, c'est une distinction construite. Et il n'est pas non plus dans cette fascination du travail manuel qui serait exceptionnel. Enfin, il y a... Voilà, c'est fin, quoi.
Oui, oui. Oui, tout à fait. Belle, excellente recommandation. Hein.
Ah, merci, merci. Je travaille un peu, en tout cas, j'espère. Est-ce qu'on a d'autres choses à partager pour cette première chronique, Luc, autour du travail?
Non, moi, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas de moi, ce que je voulais, ce qui me semblait important de remonter à la surface, et puis de donner l'idée aux gens d'aller creuser un petit peu. Seulement, si les gens commençaient par ce livre-là, je suis sûr qu'après, ils enchaîneront très rapidement sur beaucoup d'autres choses, et ils en sortiront intelligents, ils auront fait de la politique sans s'en rendre compte, et ça c'est vraiment bien.
Tu nous redonnes le titre et l'autrice ?
Alors, le livre s'appelle « Et pourtant je me suis levé tôt », c'est de Elsa Feiner, et c'est édité au Panama, mais la maison d'édition a disparu, victime elle aussi, pour les mêmes raisons d'ailleurs, a disparu, donc on le trouve facilement sur des plateformes de vente. Je ne parle pas d'Amazon, mais je pense à d'autres plateformes, ça se trouve assez facilement.
Et à la bibliothèque
d'Angers. Et à la bibliothèque d'Angers, c'est très important.
Mais il faut que tu le rendes, non ?
Il faut que je rende, puisque c'est l'exemplaire de la bibliothèque.
Bon, bah voilà, t'as une mission après cette émission. Merci beaucoup, et en prochaine chronique, dans le bruissement des feuilles. Dans 2 semaines.
Dans 2 semaines. Merci de ton accueil, Annie.
C'était Mano Solo avec le titre Du Vent, un titre qui était sorti en 2004. On parle de Sarkozy qui était alors ministre de l'Intérieur. Vous faites les liens que vous voulez avec les ministres que vous voulez, les situations que vous voulez. J'en profite de ce moment d'antenne pour relayer quelques actus angevines, des actus à venir et des invitations si vous avez envie. Samedi, on sera le 30 janvier, il y a une manifestation alors qui est pour la PMA, pour les droits des personnes LGBTQI+, contre la Manif pour tous qui revient, qui est toujours là depuis 2012, contre l'extrême droite aussi qui est assez active à Angers et qui fait pas mal de choses finalement. Et contre les virages autoritaires. Je relaie rapidement les grandes lignes de cet appel. Une manifestation qui est lancée par Quasar, par l'Étincelle et par plusieurs collectifs, qu'ils soient antifascistes, féministes, queer, aussi pour le droit au logement. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Vous trouverez plus d'infos sur le site soit de l'Étincelle, soit de Quasar. Quasar qui a une émission le jeudi sur Radio G. Les infos très concrètes, c'est rendez-vous samedi, place du Ralliement à Angers, à partir de 14h pour cette manifestation-là. Pour l'heure, vous écoutez L'Oreille Curieuse sur Radio G. Et maintenant, on retrouve un de nos rendez-vous hebdomadaires, le reportage sur le dispositif du service civique. On part à Nantes découvrir l'assaut Style Alpaga qui fait de l'insertion de la pédagogie, le tout autour du textile.
S'engager de 6 à 12 mois dans un projet collectif d'intérêt général, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans, pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Quels constats du côté des structures accueillantes? Quels atouts et quels freins? Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Style Alpaga est une association créée en 1993 et implantée dans le quartier populaire de Bellevue, dans l'agglomération nantaise. Style Alpaga traite de la question de l'insertion à travers différents projets et l'accueil de jeunes de 13 à 30 ans autour d'un outil pédagogique qui est la création textile. Zora Zawini est la responsable de l'association qui souhaite recruter une personne en service civique en 2021. Zora nous éclaire sur ce choix de recrutement tout en pointant une certaine lourdeur administrative liée à l'accueil d'une personne en service civique. Mais dans un premier temps, elle nous apporte quelques précisions à propos de Style Alpaga.
Alors en interne, en fait, on a plutôt un public féminin parce qu'on travaille sur le rapport au corps, à l'intimité, et que c'est plus simple de traiter de ces questions-là entre pairs. Mais par contre, nos projets sont mixtes et intergénérationnels hors les murs. Alors Style Alpaga a fait le choix d'accueil d'un service civique déjà l'année dernière. Bon, c'était un peu complexe parce qu'on a eu aussi une période de confinement. Et effectivement, sur l'année 2021, on souhaiterait également réitérer notre demande. Et en fait, c'est vrai que ce qui a simplifié, ce qui a motivé aussi l'accueil de services civiques, c'est qu'il y a eu tout le volet administratif qui a été allégé, puisque nous, en fait, on le co-construit avec la Fédération Animation Rurale 44. Le volet administratif, pour plein d'autres choses, ça prend énormément de temps. Je pense au détriment, en fait, de l'accueil déjà du public. Et puis l'accueil aussi, je pense, de services civiques qui doit être accompagné, qui doit être soutenu pendant cette période de volontaire. On a bien pris conscience qu'un service civique est un volontaire et non un salarié qui doit en fait qui doit pallier au manque. C'était plutôt aider à l'organisation d'événements. C'est-à-dire en fait, je pense que c'est un double enjeu, autant pour le jeune où il va acquérir des compétences, travailler peut-être sur des manques, et puis peut-être aussi l'association l'outiller à mettre en place des activités et avoir aussi un recul, le recul de jeunes en fait qui arrivent à l'association et qui peut être aussi à l'initiative de certaines actions, mais toujours accompagné et outillé par l'équipe éducative. Alors il est important en fait quand on accueille un service civique de pouvoir mettre en place un ensemble de choses. Déjà je pense un outil, enfin qui est plutôt un ordinateur, de l'imprimante pour qu'il puisse aussi aller sur internet faire des recherches. Il peut être aussi outillé par rapport à peut-être des documents, la mise en place de projets, comment ça s'articule. Et puis je pense aussi le volet communication, où c'est vrai que les jeunes maîtrisent plus internet, et je pense que là c'est aussi de lui donner parfois aussi des missions qui l'intéressent et qu'il va pouvoir mettre en œuvre lors de son accueil au sein de l'association. Alors en fait, nous on souhaiterait accueillir une personne sur à peu près 2021 dès janvier. Alors nous on a une possibilité déjà de personnes parce que on envoie la mission, hein, c'est une plateforme de service civique, et là il y a une personne avec qui déjà on travaille, qu'on accompagne, qui est en attente d'un BTS pour l'année prochaine et qui serait complètement ravie parce que c'est une année finalement qui va être un petit peu dans sa recherche. On va l'accompagner pour sa recherche de son alternance, et puis en même temps si elle peut bénéficier parce qu'elle connaît aussi un peu l'association. Alors je disais, c'est un peu aussi du donnant-donnant, quoi. Ça va, je pense, lui permettre d'acquérir des compétences, et puis nous, l'association, comme cette personne, on la connaît aussi, je pense qu'elle pourra aussi aider à organiser des événements sur 2021.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et pour finir, cette oreille curieuse qui va très certainement avoir quelques minutes de retard, j'en suis désolée, on va retrouver la chronique cinéma de Margot, des toiles plein les yeux. Alors c'est une chronique qui a déjà été diffusée, c'était fin 2019, mais le cinéma reste toujours d'actualité. Surtout qu'en ce moment, c'est Premier Plan en ligne, allez voir sur leur site, vous pourrez sans doute découvrir des projections depuis chez vous, mais gratuitement. Et sinon, il y a une très belle série de rétrospectives accessibles tout le mois. Voilà, on écoute des toiles plein les yeux. Salut Margot.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et tous. Alors, me revoilà à ce micro pour évoquer un film à partir de quelques extraits. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un événement qui a fait l'actu pendant au moins 48 heures, au début du mois, le 9 novembre pour être précise.
Tu veux bien sûr parler de la chute du mur de Berlin.
Et oui, parce qu'en 2019, on fête les 30 ans de la chute du mur déjà. Eh bien ce soir, je vous propose de revenir à un temps que les moins de 30 ans n'ont pas connu, celui de la partition de l'Allemagne entre la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. Et Barbara, le film du réalisateur allemand Christian Petzold, dont nous allons parler ce soir, évoque cette période. L'action se passe dans une petite ville champêtre de l'Allemagne de l'Est en 1980. Je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait du film, la scène d'ouverture, avec les dernières mesures de la musique du générique début. En tendant l'oreille, on perçoit déjà le son d'un vieux véhicule qui se mêle à la musique. En blanc sur fond noir, le titre.
Barbara.
Puis l'image s'ouvre sur le visage en plan serré d'une femme blonde, chignon serré. Ses yeux fuyants trahissent son anxiété, mais son visage fermé dit sa maîtrise d'elle-même. Les portes du bus s'ouvrent comme une libération. Barbara en descend avec d'autres passagers. Elle regarde sa montre et se dirige pensivement vers un banc. L'image en plan large et en plongée évoque celle d'une caméra de surveillance qui suivrait les mouvements d'un suspect. Mais le plan suivant, un homme qui l'observe à travers une fenêtre, révèle qu'il s'agissait d'un plan subjectif et que Barbara est surveillée. L'homme a un regard doux et il porte une blouse blanche de médecin. À son tour, il regarde sa montre.
C'est elle ?
Le médecin se tourne vers un homme en costume sombre, dossier à la main, qui le rejoint à la fenêtre.
Oui. Elle n'aura pas une seconde d'avance, vous pouvez me croire. Elle est comme ça.
Comment est-elle ?
Eh bien, si elle avait 6 ans, on dirait d'elle qu'elle boude.
L'homme se rassoit dans l'ombre.
Elle vit seule ?
Apparemment. Sa détention l'a totalement exclue de son cercle d'amis.
Barbara écrase sa cigarette et se lève. À la fenêtre, le médecin esquisse un sourire sardonique et jette un œil à l'homme de l'ombre.
Je vous présente le docteur Wolf. Elle va travailler chez nous maintenant, en chirurgie infantile. Elle vient de Berlin, de la Charité. C'est elle qui a décidé de venir ici.
Nous nous sommes déjà présentés.
Bien. Nous reprenons avec Weber B. L'hématome est complètement résorbé. Nous allons maintenant pouvoir retirer le drain.
Nous venons d'écouter le tout début du film « Barbara » de Christian Petzold. Ce réalisateur est l'un des fers de lance du nouveau cinéma allemand. Et pour ce film, il a été récompensé en 2012 par l'Ours d'argent de la mise en scène au Festival de Berlin. Le prix était vraiment mérité tant le film s'appuie sur la mise en scène épurée, autant que sur les dialogues, pour immerger le spectateur dans l'atmosphère pesante de l'Allemagne de l'Est et le confronter à l'ambiguïté des personnages. Alors, la scène d'ouverture que nous venons d'écouter est construite comme un dossier de la Stasi. Le générique nous donne un nom, Barbara, qui est aussi le titre du film. Et puis le premier plan, serré sur son visage, peut se voir comme une photo d'identité. Et enfin, le dialogue entre le médecin-chef de l'hôpital et le mystérieux officier de police dévoile brièvement le parcours de cette femme. Pourtant, et c'est là tout l'intérêt du film, même à nu dans un dossier, Barbara ne se dévoile pas. Écoutez ce qu'en dit la comédienne qui l'interprète, la formidable Nina Hoss.
Je ne donne pas tout de suite à voir la nature de mon personnage. Il s'agit de conserver son mystère, de rester dans la subtilité, de ne pas tout dévoiler. C'est ce que recherchaient Christian Petzold et moi.
Cette retenue des êtres est fondamentale dans un régime fondé sur le contrôle que chacun exerce sur l'autre. La dernière partie de la séquence d'ouverture peut d'ailleurs se voir comme une métaphore de cette surveillance de chaque instant. Au début des explications du médecin, l'image montre en gros plan son visage, puis ceux de Barbara et de l'adjointe du médecin. Le spectateur s'imagine alors un dialogue entre ces trois médecins. Mais le plan suivant, plus large, nous révèle qu'ils sont en fait tout un groupe à écouter le médecin-chef. Alors ce procédé de mise en scène, Christian Petzold le répète plusieurs fois dans le film, comme pour montrer la prise de contrôle par le groupe des rapports interpersonnels, ce qui rend presque impossible l'intimité et la sincérité. Le réalisateur explique.
La beauté, l'amour et la liberté étaient empoisonnés par la suspicion. Je voulais que le film se concentre là-dessus. Comment le pouvoir peut-il contaminer l'amour ? C'est bien ce qui est en jeu lors de la rencontre entre Barbara et André.
André, c'est le médecin-chef de l'hôpital, celui qui observait Barbara depuis la fenêtre. Écoutons à présent un nouvel extrait du film, la première confrontation entre Barbara et André. Barbara marche vers l'arrêt du bus. La place arborée devant l'hôpital est déserte. Elle tire pensivement sur sa cigarette, les bras serrés contre son gilet de laine. Elle examine distraitement les horaires du bus. Dans le fond, une voiture sort de l'enceinte de l'hôpital. Le plan suivant, en plongée, rappelle par son cadre celui de la scène d'ouverture. Est-ce l'officier de la Stasi qui surveille à nouveau les mouvements de Barbara depuis le bureau d'André ? La voiture passe devant elle et sort du champ. Puis elle recule et s'arrête devant Barbara. On découvre André au volant. Il n'a plus sa blouse de médecin.
Je peux vous déposer ? J'ai souvent entendu ici. Ça peut durer longtemps.
Barbara, mine fermée, écrase sa cigarette et le rejoint dans la voiture. Dans l'habitacle de la voiture.
Et alors, ça vous plaît ? Le boulot ? Le service ?
Les plans serrés sur leur visage matérialisent le duel feutré qui s'annonce dans ce huis clos.
C'est difficile à dire. C'est mon premier jour.
Vous ne devriez pas vous mettre à l'écart comme ça. Vous singularisez. Les gens ici sont très susceptibles. Berlin, l'hôpital de la Charité, la capitale. Ils le sentent très vite, vous savez. Et n'aiment pas se sentir abaissés.
En fait, c'est pour ça, j'imagine, que vous dites singulariser. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur votre classe sociale.
Barbara jauge André, baisse la tête et esquisse un sourire triste, comme pour elle-même.
Croisement, vous auriez dû me poser une question.
C'est pas cette route ?
André regarde Barbara. Son visage en plan serré montre de l'étonnement. Mais à quel point est-il fin ?
Et que fallait-il vous demander, alors ?
Vous auriez dû me demander où j'habite. Mais vous le savez déjà. Vous auriez dû aussi me demander comment j'ai atterri ici, en province. Ça aussi, bien sûr, vous le savez déjà. Ne prenez pas Ne prenez pas l'air étonné. Vous leur en avez déjà parlé. Vous vous êtes préparé. Et maintenant, c'est moi qui me singularise. S'il vous plaît, arrêtez-vous.
Dans la voiture, Barbara et André se regardent à la dérobée, se jaugent. Sourire crispé de Barbara.
À demain.
Au cinéma, le passé doit être présent, mais il doit demeurer une chose qu'on va ressentir, au moyen d'une phrase ou deux. S'il s'agissait de raconter celui de Barbara, elle deviendrait une figure morte de l'histoire.
C'est ainsi que Christian Petzold, le réalisateur du film Barbara, évoque la construction de son personnage principal. Point de flashback pour évoquer le passé de Barbara. Dans la scène que nous venons d'écouter, ce premier duel de mots et de regards, chacun teste l'autre. Et l'on peut retrouver dans l'attitude de Barbara, attentive aux moindres détails pour souligner l'ambiguïté d'André, l'expérience des interrogatoires qu'elle a dû subir avec la Stasi. Le film fourmille de scènes qui, au-delà de ce qu'elles montrent des actions des personnages au présent, révèlent en creux leur passé. Christian Petzold ajoute
« Pour moi, l'image nous transmet quelque chose, et ce doit être pareil pour le son. Dans Barbara, je voulais qu'on entende l'histoire, qu'on entende qu'on est dans un pays où il y a très peu de voitures, où tout est calme. »
Ainsi, le son du film, notamment hors champ, tient une importance particulière dans le ressenti d'un pays sous surveillance. Le bruit des pas qui approchent, d'une voiture qui s'arrête devant l'immeuble, de portes qui claquent, d'une sonnette stridente. Pour nous en convaincre, écoutons un dernier extrait du film. Barbara est agenouillée près de sa baignoire.
Avec une dimension d'épouvante de l'interprétation de Furtwängler, il ressort de la magie, de force démoniaque et autant de profondeur que de solennité.
Elle écoute la radio et plonge une vieille chambre à air dans le bain. Après quelques instants dans l'eau, des bulles d'air apparaissent. Barbara appuie un doigt dessus pour contenir la fuite, métaphore visuelle de sa condition. La musique prend de l'ampleur et l'image montre à présent un couloir de l'hôpital. L'alignement des portes des chambres évoque immédiatement celui des cellules d'une prison, alors que la musique tragique se déploie. Elle est soudainement interrompue par un claquement hors champ. Par l'embrasure de la porte du vestiaire des médecins, Barbara voit passer une jeune fille violemment escortée par la police. Elle enfile sa blouse et rejoint prestement le cortège. Sans un mot, le visage fermé, elle prend connaissance du dossier de la jeune fille. Celle-ci est maintenue de force sur une table d'examen et André s'apprête à lui administrer un calmant.
C'est bon, vous pouvez la lâcher.
Regard surpris d'André auquel répond le visage décidé de Barbara.
Ils vont te lâcher maintenant.
Barbara se penche vers la jeune fille.
Stella, tu peux essayer de t'asseoir ?
Le cadre de l'image se resserre sur la patiente, accompagnant la relation personnelle qui se noue.
Stella, est-ce que tu peux faire ça ?
Barbara hoche lentement la tête, souriant à sa patiente.
C'est bien, merci.
André sort de la pièce. En plan serré, la caméra suit Barbara qui se penche sur Stella.
Je reviens tout de suite, d'accord ? Tout va bien se passer.
Barbara sort à son tour. Elle retrouve le médecin-chef dans le couloir.
Méningite ? Les tiques ?
Sans doute.
Vous avez trouvé des piqûres ?
Apparemment, elle s'est cachée dans les prés pendant 6 jours. C'est une zone à tiques, c'est écrit dans le dossier.
D'habitude, je lis toujours le rapport. Je ne sais pas pourquoi.
Il faut préparer une ponction lombaire.
Généralement, Christian Petzold décrit des personnages renfermés chez qui on pressent quelque chose. De la douleur, du regret. Ils se sont érigés une barrière et on va observer le processus d'effritement de cette barrière.
Ces mots sont ceux de Nina Hoss, la formidable comédienne qui interprète Barbara. La dernière scène que nous venons d'écouter est un premier pas dans ce processus d'effritement. Cette séquence, qui mêle l'évocation de la liberté avec les bulles de la chambre à air et univers carcéral, est aussi la rencontre décisive avec Stella. C'est ce nouveau personnage, maltraitée par le régime et pour qui elle a une empathie immédiate, qui accule Barbara dans un dilemme professionnel et personnel. Car au-delà d'un époustouflant thriller romantique, le film de Christian Petzold est avant tout le portrait d'une femme en proie au doute. À qui peut-elle réellement faire confiance ? Qui peut-elle se risquer à aimer ? Quel avenir veut-elle vraiment ? On se quitte en écoutant l'une des rares musiques du film.
Barbara, un film réalisé par Christian Petzold, est sorti en salle en mai 2012.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD et Blu-ray. Éditeur Pyramide Vidéo. L'édition vidéo propose des bonus intéressants, notamment un entretien avec le réalisateur Christian Petzold et la comédienne Nina Hoss, dont nous avons cité plusieurs extraits ce soir.
C'est la fin de l'oreille curieuse. Merci beaucoup, Margot. On retrouvera la prochaine chronique d'étoiles plein les yeux dans 2 semaines. Pour cette fois, une diffusion originale. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de ces un petit peu plus que 40 minutes de radio. J'espère que ce fut un bon moment. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle est en ligne sur le site de Radio G à la page de l'oreille curieuse. Nous, on se retrouve lundi à 18h10 et il y aura dans l'émission la chronique sur la musique avec Mehdi, la conquête du son, et on parlera de nutrition avec José, Cacahuète et compagnie. Il y aura sans doute une Selecta podcast ou autre chose, une petite recommandation du lundi. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui allait très bien. Vous pouvez le faire via les réseaux sociaux de Radio G, Instagram, Twitter, Facebook, ou bien par mail à l'ancienne avec l'adresse prog.radioG@gmail.com. Je serai toujours très heureuse de lire vos retours, quels qu'ils soient. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis donc à lundi. Vous allez rebasculer sur la programmation musicale de Radio G, qui est cousue main par Julien, notre programmateur musical. Bonne soirée, à lundi.
www.radio